Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, aujourd'hui accompagné par Zora. Bonjour Zora.
Bonjour.
Et par Raouf.
Bonjour.
Merci Raouf. Et aujourd'hui, nous recevons une voisine, Élise Delestrée, qui est chargée de production chez Contre-Courant Prod, une association dont elle est cofondatrice. Et cette association accompagne des artistes de notre région, principalement dans le domaine musical, et organise des événements culturel, dont un festival du slam dont nous reparlerons. Mais bonjour Élise.
Bonjour.
Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Alors, je m'appelle Élise Delestrée, je suis chargée de production pour l'association Contre-Courant que j'ai fondée avec deux copains il y a 15 ans de ça, pour accompagner des artistes sur le côté administratif et technique. Et à côté, on a co-organisé le festival Nuit du Slam en Occitanie et maintenant on produit le festival donc sur toute la région Occitanie.
Peux-tu nous expliquer ce qu'est Contre-Courant ?
Alors Contre-Courant, c'est un outil en fait, c'est une association qui est là pour aider les artistes sur des questions administratives notamment. C'est-à-dire que nous, on aime à dire qu'on fait tout sauf monter sur scène. On aide les artistes à trouver des budgets pour leur création, à trouver des salles. Quand on travaille sur des albums, on enregistre les albums avec eux, on sort des disques, on fait ce qu'on appelle l'accompagnement artistique en bureau de production.
Tu es la fondatrice de cette association. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a mené dans ce milieu ?
En fait, quand j'étais jeune, à un moment, j'ai des copains qui m'ont amené à une soirée qu'ils organisaient et je leur ai donné un petit coup de main. Et j'ai croisé plein de gens dans le public qui me disaient, des copains à moi en fait, qui venaient de danser et qui m'ont dit « Mais qui a organisé cette fête ? C'est génial !» Et je me rappelle, j'étais en train de traverser la salle avec des bières pour les ramener au bar. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Moi, je trouve ça super, en fait, d'avoir des gens qui sont heureux de ce qu'on peut proposer. Et j'ai eu envie, en fait, de participer à donner du bonheur aux gens un peu à ma manière.
Est-ce que tu es musicienne toi-même ou...
Eh ben, même pas, figure-toi. Moi, je dis toujours... Enfin, maintenant, je dis que je joue du pipeau, puisque...
Comme moi à l'école, oui.
Puisque moi, mon rôle, c'est d'être interface, en fait, entre les artistes et les autres. Donc, des fois, je vends des spectacles qui n'existent pas, des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que je joue du pipeau.
Quelles sont les principales activités de l'association ?
Alors, l'association donc, accompagne des artistes. Accompagner, c'est très très large. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, leur trouver une salle pour travailler leur spectacle. Ça peut être faire des factures. Ça peut les mettre en lien avec d'autres personnes. Donc ça, c'est la partie accompagnement d'artistes et production. On fait aussi des actions culturelles, c'est-à-dire que tous les artistes avec qui on travaille font des propositions pour sensibiliser les publics, notamment en scolaire, hors scolaire, et du coup leur apprendre en fait à travers des ateliers d'écriture ou des ateliers musique. Et on a donc le festival Nuit du Slam.
Alors vous êtes partenaire des Nuits du Slam, si j'ai bien compris, qui est un événement national, c'est bien ça pour l'Occitanie ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet événement et nous dire ce qui va se passer dans le coin ?
Alors, Nuit du Slam, c'est un festival qui existe depuis 18 ans cette année, qui est né vers Lyon. C'est des artistes, en fait, qui se croisaient sur des scènes ouvertes, qui se sont dit qu'en fait, un jour, ce serait bien d'aller voir une institution pour essayer de faire financer leur événement. Parce que c'est des événements, en fait, qui croisent différentes cultures et différents publics autour de l'écriture et la musique. Et du coup, donc, ils sont allés voir leur institution qui a dit, bah ouais, c'est super, du coup, on va vous donner un peu d'argent. Et comme c'est des gens qui travaillaient sans argent, avec les 2-3 sous qu'on leur a donnés, et ben, en fait, ils ont fait intervenir d'autres artistes d'autres villes. Et au fur et à mesure, en fait, on est allé comme ça chercher de l'argent à droite à gauche, et au lieu de se payer avec, on mettait des moyens pour mettre de l'essence dans les voitures, faire des échanges artistiques et tout. Et donc, du coup, Nuit du Slam est devenu comme ça un projet national. Ils nous ont appelés pour que nous, on participe en fait à Toulouse. Et à Toulouse, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, mais en fait, nous, tous nos copains nous disent, vous travaillez sur un festival, mais vous ne faites qu'une seule soirée. Alors qu'un festival, c'est plein de soirées, normalement. Et donc, on a monté Nuit du Slam en Occitanie, où on a organisé nos propres événements dans chaque ville du département de la région Occitanie.
Quelles sont tes missions dans cette organisation ?
Moi, je dirige. Je suis la chef. Du coup, je coordonne en fait beaucoup, je mets les gens en lien et puis je leur impose les plannings. Ça, c'est le truc moins rigolo. Oui, en fait. Alors, intermittent du spectacle, c'est tout simplement le fait d'avoir un métier qui a des contrats courts. C'est-à-dire que quand on travaille, on est en CDD, donc je ne sais pas, sur un contrat d'un mois ou deux, en CDI, donc sur un contrat à durée indéterminée. Et quand on est sur des contrats d'une journée, ça s'appelle les CDDU, c'est-à-dire les contrats uniques. Et ça, c'est de l'intermittence. Ça veut dire que, en fait, on travaille sur des périodes d'une journée, en gros. On peut avoir plusieurs journées d'affilée, mais en gros, c'est une journée. Et la différence avec les autres, c'est que nous, on doit faire 507 heures dans l'année pour pouvoir avoir accès à France Travail, alors que je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1600 ou 1800 heures pour le régime général. Donc en fait, nous on cotise plus, c'est-à-dire que sur nos salaires on a plus de cotisations pour nous permettre en fait, quand on ne travaille pas, d'être indemnisé par les ACEDIC. Et ça c'est vraiment que pour les gens qui travaillent dans le spectacle en fait.
Est-ce que c'est compliqué du coup pour vivre dans l'année, pour avoir un équilibre financier
Oui, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que les intermittents en fait n'ont que 507 heures à faire. C'est-à-dire qu'ils cotisent beaucoup plus que les autres. Parce que justement, ils ont plus de difficultés à être payés et à faire leurs heures.
Et qu'est-ce qui t'a fait, toi, choisir ce statut ?
Alors moi, j'ai différents statuts. C'est un petit peu compliqué, en fait. Moi, je suis intermittente et en contrat parce que je travaille pour contre-courant et que des fois, je travaille pour d'autres structures, tout simplement. Ça m'arrive de travailler, de faire mon travail de chargée de production sur d'autres festivals, en fait. Et du coup, c'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir m'embaucher parce qu'on ne peut pas faire cumuler plusieurs CDD en fait, dans une entreprise, tout simplement.
Comment vois-tu l'avenir ?
Oh, alors là, c'est une très bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Et puis, je vais te dire, avant, je crois qu'il y a 2 ans, je t'aurais répondu un petit peu. Il y a 1 an, je t'aurais répondu un tout petit peu. Et alors là, maintenant, là, tout de suite, je ne te réponds pas. Parce qu'en fait, on est très tributaire des politiques publiques.
Oui.
Et bon, bah voilà, je veux pas vous raconter les infos. Vous avez tous la télé, la radio, vous savez ce qui se passe. Et la culture, c'est la dernière roue du carrosse.
Oui.
Moi, je dis toujours, quand les gens peuvent pas se soigner, qu'ils ont froid chez eux et qu'ils ont pas d'instituteur ou de prof à l'école, en fait, évidemment que la culture arrive derrière. Et malheureusement, c'est un choix que notre gouvernement est en train de graver dans le marbre. Donc on ne sait pas. C'est un milieu qui est en gros changement. On ne sait pas ce qui va se passer vraiment.
Est-ce que les collectivités locales se désengagent aussi de la culture ?
À ce niveau-là, je sais, je n'ai pas de mots plus forts que désengagement. Mais si je l'avais en tête, je l'aurais utilisé. On a la région Val-de-Loire qui a arrêté à 100% les subventions de la culture en 2025.
Ah oui, quand même.
La ville de Toulouse qui fait minimum une baisse de 40% des subventions.
40%?
Ouais. C'est en gros, on a à peu près entre un tiers et la totalité des subventions de la culture qui s'arrêtent en 2025. Donc c'est ce pourquoi on est très en danger. parce que comme c'est radical, en fait, on n'a pas eu le temps de réfléchir à un autre système financier. Ça ne nous a pas trop laissé le temps, après le Covid, de fonctionner différemment. Donc là, malheureusement, c'est très, très difficile de se projeter.
Je pourrais dire qu'ils vont en contre-courant, là.
Ouais, exactement. Mais pour le coup, là, ça nous fait moins rigoler.
Non, justement. Alors, mais là, c'est... Alors.
Élise, les locaux de contre-courant sont installés dans la Bouillonnante. Et donc, c'est en périphérie du Café & Co. On voulait savoir si la proximité de structures de l'ESS, ici, ça pouvait générer pour toi des échanges. Et si oui, quel type d'échange ?
Oui, tout à fait. En fait, nous déjà, on a toujours été en bureau partagé. On n'a jamais voulu être tout seul, justement pour avoir des échanges avec d'autres personnes ou d'autres structures qui nous ressemblaient, en tout cas moralement, intellectuellement. Et ça simplifie les liens, puisqu'on n'a qu'à se retrouver au café, en fait, pour faire une pseudo-réunion et monter des actions. Donc on a déjà pas mal d'actions, en fait, qui ont été facilitées par le fait d'être dans le même bâtiment et de, entre guillemets, pas avoir à perdre de temps, à chercher un rendez-vous, une disponibilité. Là, on mange ensemble et puis on avance sur les projets, donc c'est chouette.
Quand j'ai fait mes débuts dans la radio, il y a une vingtaine d'années, j'avais participé à des agendas culturels sur Radio Montpellier. Et les artistes que nous invitaient nous disaient souvent qu'ils avaient du mal à trouver des lieux pour se produire à Toulouse. Est-ce que c'est encore un problème à Toulouse aujourd'hui ?
C'est même pire qu'avant parce que justement les lieux ferment et que pareil la municipalité met moins à disposition en fait les centres culturels. Je crois que c'est fin 2023. Enfin bon, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas la ville de Toulouse il y a un an à peu près a reçu le label UNESCO ville créative. Donc du coup sous couvert de ça, on essaye de demander à la municipalité d'ouvrir des lieux. Qui ne sont pas forcément des lieux de concert, des lieux comme les abattoirs qu'on essaye de dédier à des spectacles, et d'ouvrir les centres culturels en fait, aux associations parce qu'ils ont très peu de programmation.
Sinon, je me demandais quel type d'artistes vous accueillez chez Contre-Courant. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ? Est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte ? Est-ce que vous avez des styles musicaux privilégiés ?
C'est un peu les deux. Souvent, on les choisit, mais on en a un, par exemple, avec qui on travaille et que j'adore, qui s'appelle Anka. On travaille avec lui parce que en fait, il est venu nous voir à plusieurs reprises. Il avait essayé de prendre des rendez-vous, mais on n'avait pas le temps. Et en fait, il est venu ici, à la Bouillonnante, devant notre bureau. Il a fait un sitting, il nous a laissé une clé USB. Et en fait... On ne voulait pas le laisser le mettre de côté parce qu'on trouvait qu'il avait fait tellement d'efforts qu'on s'est dit bon, on va être poli. En fait, c'était vraiment de la politesse. Et finalement, cette politesse s'est transformée en collaboration parce qu'on aimait aussi son projet hein, et que, comme on dit, l'occasion a fait le larron.
Donc il faut oser.
Il faut oser. C'est vraiment une question de hasard et de timing, vraiment.
Et vous êtes plutôt avec des artistes débutants ou avec des grosses pointures déjà très connues ou...
Alors nous, on fait ce qu'on appelle de l'émergence artistique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des artistes dits méconnus, mais on a des artistes aussi avec qui on travaille qui sont connus, et encore, ça veut dire quoi être connu ? Parce que nous, on a par exemple un artiste avec qui on est en train de sortir un album là, sur 2025, qu'on considère très connu en jazz. Moi, je suis montée dans l'avion, j'ai entendu ses morceaux plusieurs fois, il a été victoire du jazz, de la musique... Et la plupart des gens ne le connaissent pas quand je dis son nom. Donc connu est un bien grand mot. Être connu comme Johnny, c'est rarissime.
C'est qui ? c'est qui ? Voyons.
C'est Sonny Troupé.
Ah non, je ne sais pas, non.
Tu vois ?
Non.
Pour terminer peut-être cette première partie, tu pourrais nous rappeler les dates des Nuits du Slam ?
Alors on démarre le 28 février à la Bastide de Sérou. Ensuite, c'est le 15 mars à Figeac. Ensuite, on fait un atelier de création en chansigne à la Bouillonnante du 15 au 21 mars. Le 22 mars, on a la Nuit du Slam de Toulouse à l'Espace Roguet. Le 27 mars, à Albi. Le 28 à Gignac. Le 29 mars, à Lautrec. Et le 11 avril, à Marciac.
Ah, Bocca d'Adria.
Ah, oui.
Et c'est plutôt des concerts ou des moments où, pour faire découvrir le slam, pour faire pratiquer le slam au public. J'ai l'impression qu'il y a un peu les deux, non, d'après ce que j'ai pu trouver.
Ouais, il y a les deux à chaque fois. En fait, le principe, c'est de créer de la rencontre entre les publics et entre les amateurs et les professionnels, et puis de créer, si possible, des vocations. Donc, du coup, on fait toujours des ateliers d'écriture. Ensuite, il y a des scènes ouvertes où tout le monde peut s'inscrire ou proposer le texte, travailler en atelier d'écriture avant ou rien à voir. Et après, derrière, il y a ce qu'on appelle une programmation professionnelle qui est assez variée. En général, c'est des concerts, mais nous, par exemple, à Toulouse, on fait des spectacles pluridisciplinaires en langue des signes.
Ah oui, c'est génial, c'est paradoxal du slam à langue des signes quand même, c'est chouette. Oui,
on fait de la musique pour personnes sourdes et des ateliers d'écriture justement, de rencontres. En fait, on appelle ça poésie des gestes et poésie des mots. C'est de la rencontre entre gens qui signent, pas entendant, Et l'idée, c'est de créer un nouveau langage commun et un langage artistique grâce à cette rencontre.
Oui, ça va plus loin que le sans signe qu'on voit des fois dans certaines... Vous travaillez vraiment à quelque chose d'inclusif, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. En fait, moi, j'appelle ça la traduction Sénat. C'est-à-dire que, ce qui se passe souvent sur des concerts, où on traduit les textes, ce qui est faisable, où on crée vraiment ensemble. Et là, du coup, au niveau de la mise en scène, etc., c'est pas pareil, quoi.
Donc, on avait dit en introduction que tu es chargé de production. Alors, je voulais savoir si tu peux nous dire en quelques mots en quoi cela consiste au quotidien et si tu conseilles, quel conseil tu aurais envie de donner à des jeunes ou des moins jeunes qui auraient envie de suivre ta voie ?
Alors, chargé de production, ça pour le coup, que ce soit dans la musique ou dans un autre milieu, c'est en gros réunir des moyens pour produire quelque chose. Donc ça va être trouver des moyens financiers, trouver des lieux. En gros, c'est ça mon travail. C'est-à-dire que là, sur le festival, je mets en lien les techniciens et les artistes, je loue le matériel, je réserve les salles, je programme les artistes. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour suivre cette voie, c'est de s'investir en fait auprès d'associations culturelles déjà pour voir en fait ce que ça donne, pour avoir un peu comme on dit les mains dans le cambouis, et puis après de faire des formations parce qu'il y a quand même un cadre légal qu'il faut connaître et qui s'invente pas.
Et c'est uniquement la musique ?
Moi, c'est uniquement la musique, mais après, c'est un métier qu'on retrouve dans toutes les disciplines artistiques.
Oui, parce que justement, moi, j'ai fait du théâtre et il y avait un peu... Donc, c'est un système comme ça aussi, avec un contrat, production, tout ça, j'avais...
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça. Okay. Oui, tout à fait.
Et tu penses que c'est un métier d'avenir ?
Alors ça c'est comme l'avenir de la culture, tu vois, j'aurais envie de dire oui,
comprends pas,
et de crier oui même, mais je suis pas sûre.
D'accord.
Je comprends pas, parce que la culture ça fait partie de notre... Je comprends pas, c'est un truc qui me... Ouais.
Mais en tout cas, bravo à toi d'avoir pu oser faire un métier, allier ta passion et ton travail, quoi, quelque part.
Ouais. Merci beaucoup.
Pourtant, c'est intéressant.
Merci d'être venu aujourd'hui à Café & Co. Et vu que tu viens parfois ici, vu que tu es à côté, qu'est-ce que tu évoques ce lieu, en fait ?
Moi, je trouve que c'est un lieu de partage, Café & Co, justement. Ça ressemble à ce qu'on veut faire. Mais vous, c'est du coup, vous le faites humainement et entre guillemets matériellement, puisque vous avez cet espace de rencontre et de partage qui est super, avec plein d'activités proposées.
Bonjour, c'est la deuxième partie de l'interview d'Élise Delès en compagnie de Lorient, Claire.
Bonjour.
Gabriel.
Bonjour.
Christopher. Contre-courant, pourquoi ce nom ?
Alors, tu veux vraiment que je te raconte ? T'as du temps ?
Oui.
Eh bien, quand on a monté l'association, on a failli la monter plus tard que prévu parce qu'on avait tous un enfant à ce moment-là. Mais bon, moi, comme je suis une femme, j'avais un enfant dans mon ventre. Et du coup, en fait, j'ai rêvé qu'il y avait un bébé qui prenait deux prises et qui les emboîtait l'une dans l'autre et que ça faisait un contre-courant, tout simplement. Et du coup, on trouvait ça rigolo. Bon, je t'avoue que le père de mon fils, à ce moment-là, s'est quand même un peu questionné. Il s'est demandé si j'allais électrifier mon enfant. Mais du coup, on trouvait le nom rigolo. Ça nous a donné une idée de logo. Et on s'est dit aussi qu'on voulait peut-être travailler un peu différemment des autres bureaux de production, donc contre-courant.
Est-ce que vous faites des castings pour choisir vos artistes?
Non, ça, alors ça ne marche pas comme ça. En fait, quand pour travailler avec un artiste, où on va le voir parce qu'on le connaît et du coup, on va lui demander en fait, à la fin d'un concert ou d'un spectacle s'il veut travailler avec nous. Ou c'est les artistes qui viennent nous voir et on leur dit oui ou non parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout simplement. Donc c'est pas un casting.
Faites-vous des contacts dans d'autres départements, pas dans d'autres, à Tatatom ou dans le Tannetara à Montauban?
Alors, on fait des événements à Montauban. On en fait un petit peu partout dans la région. Et même, je vais faire la maline, même dans le monde, on a déjà fait des concerts en Argentine, au Japon, etc.
Est-ce que les artistes étrangers sont dans votre programmation?
Oui, on peut programmer des artistes étrangers. Après, nous, on travaille essentiellement avec des artistes français ou francophones, en tout cas. Je dis francophones parce qu'on travaille beaucoup avec des artistes qui viennent des Caraïbes. Notamment des Guadeloupéens, mais en général, c'est des artistes français. Ou alors, on est invité à des collaborations.
Comment vous faites pour aider à réserver une salle de spectacle?
Eh bien, on appelle la salle et on lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails parce qu'en général, ils ne répondent pas tout de suite.
Est-ce que vos artistes vivent de la musique?
Oui. Oui, oui, on est entre guillemets professionnel. Je dis entre guillemets parce que il y a pas de définition de ce qu'est être professionnel de la musique. Il y en a qui disent que quand on est intermittent, on est professionnel, mais en fait, c'est pas vrai nécessairement. En tout cas, oui, les artistes vivent de leur travail et souvent ils ont plusieurs projets en fait pour en vivre.
Quelles sont les ressources de vos artistes?
Alors, les sources de revenus des artistes, ça va être divers. Ça va être déjà les concerts. Quand ils font un concert, ils sont payés. Et après, c'est la vente de disques et les droits d'auteur. C'est-à-dire que quand on fait des spectacles ou quand ça passe à la radio ou quand ça passe dans la presse, en fait, ça génère ce qu'on appelle les droits d'auteur. Et ils sont aussi rémunérés là-dessus.
Quels sont les dangers de l'IA pour les musiciens?
Ah ben je crois que c'est le danger qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, c'est que ça remplace une partie de notre travail. Après, pour l'instant, l'IA reste assez bête. L'IA croise des informations sans réfléchir, donc elle n'a pas de sensibilité, elle n'a pas de subtilité, et ça se lit. Ça se voit, mais peut-être qu'un jour, avec les compétences des uns et des autres, l'IA arrivera à nous remplacer. Ça, on ne sait pas. On n'espère pas.
Est-ce que ça vous intéresserait de participer à la nuit du slam?
Ah ben, grand plaisir.
Ah, chouette alors.
Je ne sais pas trop ce que c'est.
Tu sais pas ce que c'est le slam?
Non.
Eh ben, tu vois, ça c'est une question que tu pourrais lui poser.
Qu'est-ce que c'est le slam?
Alors, le slam, c'est de la poésie, ce qu'on appelle de la poésie performée, c'est-à-dire de la poésie où on met du corps, où on fait des gestes. On appelle ça la poésie scandée aussi, parce que du coup, il y a, comme dans le rap, il y a du rythme. Sauf que la différence, c'est que il y a moins de gros mots que dans le rap. Et il y a, quoique, ça dépend des fois, mais normalement, c'est ça. Et puis du coup, il n'y a pas de musique. Un texte de slam, c'est un texte de 3 minutes qui vient de écrit par soi-même, sur lequel il n'y a pas de musique et pas d'accessoires. Donc pas d'accessoires, c'est-à-dire pas de chapeau, pas de je sais pas quoi, de déguisement. Il faut venir comme on est sur scène.
Tu aurais peut-être le nom d'un artiste qu'on pourrait écouter tout de suite là pour faire découvrir le slam?
Il y en a. Bah, après, le plus connu, ça reste Grand Corps Malade, mais il y a Gaël Faye, est un slammer, écrivain assez intéressant. Après, moi, je dis toujours Brigitte Fontaine, elle fait du slam, hein, donc Arthur H aussi, tu vois.
Pourquoi on dit que le slam et le rap, ça a une même distinction, je sais pas.
En fait, le principe se rapproche, c'est juste que ça vient pas de la même culture. C'est pour ça qu'ils s'entendent pas forcément. C'est-à-dire que le rap, on dit que c'est une expression de la rue, qui vient essentiellement des quartiers populaires, etc. Parce que c'est, musicalement, c'est plus facile. C'est ce que nous, on propose avec le slam, c'est-à-dire qu'il suffit d'un papier, un stylo, et puis on fait un morceau, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un clavier ou autre. Et en fait, le slam, c'est pareil, sauf que ça vient de la culture poétique. Ça vient de la poésie. Donc, du coup, pour les rappeurs, le slam, c'est un truc de vieux casse-pieds. Et les slameurs disent que les rappeurs sont des petites racailles qui parlent mal. Mais en fait, en vrai, ils écrivent des textes poétiques et ils expriment des choses qui viennent de l'intérieur de leur cœur ou qui vivent dans la société. Là-dessus, ça se rapproche énormément. Surtout que les slameurs mettent de la musique sur les textes. Donc, effectivement...
Et les gens, est-ce à la fin du concert, est-ce qu'ils sont heureux ou pas bien pendant le concert quand vous chantez?
Alors, on fait en sorte qu'ils soient heureux. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, en fonction des concerts, de ce qu'on programme, il y a des moments qui ne sont pas faciles. Par exemple, là, à Toulouse, on va programmer un spectacle sur les violences familiales. En langue des signes. Donc, j'ai pas vu le spectacle en entier, mais je pense qu'il y a des moments qui vont être compliqués dans la journée. Mais du coup, après, en fait, on a programmé ce qu'on appelle des choses plus légères pour faire un peu rigoler les gens, quand même. Et sachant que de toute façon, on peut rigoler de sujets très tristes et inversement, il y a très triste de sujets rigolos, donc ça dépend de la façon dont on les traite. Mais nous, on fait en sorte que les gens repartent avec le sourire et pas avec une dépression, sinon c'est pas rigolo.
Élise, merci beaucoup. Pour le temps que tu nous as accordé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude ici de recevoir des personnes qui viennent parler de musique, forcément, tu vois, donc c'était intéressant. Et voilà, si un jour tu veux profiter aussi du studio avec peut-être des artistes que tu reçois ou que tu auras envie d'interviewer, c'est avec grand plaisir qu'on pourra l'ouvrir et même te prêter main forte. Tu vois, on a quand même ici un bataillon d'intervieweurs.
Donc, une classe de journalistes.
C'est ça.
Oui.
Voilà, donc merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.